France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Ces nouvelles, ces contes, l'écrivain Noël Devaux les qualifiait de brèves imaginations, dont le genre, en effet, était indécis. Accumulation de bizarres, pour autant fantastique. Le fantastique, la sorcellerie, les diableries, les apparitions de fantômes, certes, mais jadis, le genre devait évoluer, se renouveler. Le 18 mars 1966, Roger Vrigny, Marcel Schneider et Jacques Brenner s'interrogeaient sur les vertus principales du talent littéraire de Noël Devaux et nous faisaient entendre l'une de ses nouvelles déroutantes.
Les cris de la fée. Une émission de Marcel Schneider et Roger Vrigny, avec aujourd'hui la collaboration de Jacques Brenner. Les textes de Noël Devaux seront lus par France Descaux. Réalisation Guy Delaunay.
La présentation de l'auteur fantastique d'aujourd'hui, Marcel Schneider, est assez difficile à faire. En effet, il s'agit de Noël Devaux. Noël Devaux est un écrivain contemporain. Il a publié deux recueils de nouvelles fantastiques, de contes, qui ont fait du reste très justement sa réputation de grand auteur du fantastique, L'Auberge Parpillon en 1945 et La Dame de Murcy en 1961. Je signale que ces deux livres sont édités chez Gallimard. Je ne sais pas s'il est très facile de se les procurer.
Le premier, certainement pas.
D'autre part, Noël Devaux, en tant qu'homme, est un être assez secret, dont on ne sait à peu près rien. Je veux dire qu'il n'a pas une vie publique. Il mène une vie d'homme privé, parfaitement honorable, bien sûr, mais qui ne nous aide pas à connaître l'homme, l'écrivain.
Non, il mène une vie familiale très retirée et... Cela ne nous donnera pas l'occasion, effectivement, nous ne pourrons pas nous reporter à cette vie personnelle pour expliquer les contes de l'Auberge Parpillon et de la Dame de Murcy.
Et enfin, troisième difficulté, quand il s'agit de donner un aperçu, un résumé, une description des contes de Noël Devaux, eh bien, on n'y arrive pas. Ou presque.
Non, on n'y arrive pas.
On n'y arrive pas parce que justement, c'est ça le comble de l'art aussi, dans une certaine mesure. Mais ce ne sont pas des histoires qui peuvent se réduire à un résumé, si vous voulez.
Ou alors, la réduction de l'histoire dans ses déroulements et ses péripéties ne donne pas la signification réelle du conte.
Alors nous pourrions peut-être emprunter la lanterne d'un... un homme très subtil, qui a écrit la postface de l'Auberge Parpillon et qui est Jean Paulhan.
Oui, Jean Paulhan, en effet, a repris un à un presque tous les contes qui sont dans ce recueil. Lequel recueil emprunte le titre du premier, qui est l'Auberge Parpillon. Nous voyons une auberge d'autrefois. Noël Devaux excelle à décrire en termes à la fois impressionnistes et avec des procédés illusionnistes les maisons du siècle dernier ou bien des temps légendaires, les scènes d'intimité. Et il nous introduit par conséquent dans une auberge du siècle dernier, d'après, semble-t-il, d'après la description de l'auberge et surtout d'après les costumes des personnes qui se trouvent dans la cour de cette auberge. En effet, c'est une auberge qui sert en même temps de relais et monte dans la voiture qui attend dans la cour un certain nombre de jeunes femmes habillées comme on l'était sensiblement vers 1830. Quelles sont ces voyageuses? Ça, nous ne le saurons pas. J'entends, nous ne saurons pas quelle est la personnalité et l'essence de ces voyageuses. Ce sont évidemment des entités féminines, mais sont-ce des rêveries, sont-ce les heures ou encore les passions des feintes. Il y a une volontaire indétermination de la part de l'auteur. Et ce qui frappe le narrateur, en plus de cet étrange cortège de ces jeunes beautés d'autrefois, c'est qu'il y a là une folle, une jeune folle, qui le salue en lui disant « Honneur aux étrangers ». Et alors cela conduit Jean Paulhan à faire les réflexions suivantes au sujet de ce conte. Il suffit d'écouter les aveux des romanciers pour être conduit à distinguer en tout roman deux parts. L'une est parfaitement sage et vraisemblable. C'est celle que l'auteur a forgée de toutes pièces dans ses rêves les plus fous et son imagination débridée. L'autre part est plutôt baroque et choquante à force d'invraisemblance. C'est celle que l'auteur a patiemment calquée sur la réalité.
Aimablement paradoxale.
On sait tout cela, ajoute Paulhan, et puisqu'on le sait, je puis en tirer quelques conséquences. Ce sera par exemple que Devaux a véritablement rencontré cette jeune folle de l'auberge Parpillon qu'il a saluée d'un « honneur aux étrangers ». Ce sont des choses comme il en arrive. Quant à la fuite des heures, et même à leur départ en berline, voilà une rêverie fort commune. Le nœud de l'affaire, ou plutôt le secret de Noël Devaux, c'est que la folle a rejoint la berline. On ne voit guère pourquoi. On ne le voit pas. Mais il me semble, si on a lu l'auberge assez patiemment, que l'on finit par deviner, ou plutôt par sentir, qu'il existe certaines analogies entre une folle bavarde et l'heure de notre mort. De sorte que le secret de l'auteur devient insensiblement le nôtre. Eh bien, qu'est-ce que vous pensez de cette exégèse subtile, Roger Vrigny ?
Je pense qu'ici, Jean Paulhan, nous parlant de la folle qui dit « honneur aux étrangers », représente cette brusque révélation qui vous est donnée d'avoir de pénétrer dans un monde qui nous est encore inconnu tant qu'on vit, et qui est celui de la mort. On est étranger à ce monde de la mort.
Oui, on y est étranger, effectivement, jusqu'au moment où la chose se produit, et c'est pour cela que nous ne pouvons jamais connaître la mort d'avance, puisqu'au moment où nous la connaissons, nous ne sommes plus en vie. Et alors, que ce soit là, qu'il y ait là un décalage qui puisse être représenté par une folle, je crois en effet que l'intuition de Jean Paulhan doit être juste.
Oui, d'autant plus que la mort est toujours quelque chose de déraisonnable pour celui qui vit.
Pour les vivants en général, c'est même la chose la plus déraisonnable du monde.
Oui.
Non pas seulement désagréable, mais enfin une chose qui apporte une rupture choquante dans nos habitudes et nos manières de penser et de vivre.
Mais alors voyez-vous, j'ai peur d'une chose, c'est que du fait de ce commentaire assez subtil et de ces tentatives d'explication que nous donnons les uns et les autres, le lecteur ou l'auditeur puisse croire que les textes de Devaux sont très difficiles. Et quand je dis très difficiles, sont très rebutants. Alors qu'au fond, ils le sont dans leur indétermination, dans le climat d'étrangeté qu'il nous fait connaître, mais pas du tout de la façon dont il nous y fait pénétrer.
Non,
il y a un charme, au contraire, il y a une
charme,
séduction.
Une grande séduction de style et également de récit. Parce que Noël Devaux est un véritable conteur en cela qu'il enchaîne les propositions. Je parle pas des propositions sur le plan grammatical, bien entendu, n'est-ce pas, mais sur le plan mental, de telle manière qu'il nous en sert et nous séduit au sens fort du terme.
Et je me demande si ce n'est pas là un des exemples les plus parfaits de ce que vous disiez vous-même au début de cette série d'émissions en parlant du monde qui est au-delà de l'horizon et qui est le monde que nous ne voyons pas, donc le monde de l'invisible, et que le propre de l'auteur fantastique est de nous faire voir ce monde de l'invisible. Comment nous le faire voir, sinon par des mots visibles, donc par des mots apparemment opaque, je veux dire des mots qui ne rendent pas la réalité de l'invisible, mais qui simplement nous mettent dans une certaine ambiance, dans un certain climat, dans une certaine approche, sans aucune intervention, encore une fois, de moyens traditionnels du fantastique. Nous voyons des réalités qui sont des réalités communes, tout en étant des réalités extraordinaires. Enfin, là aussi, il est bien difficile de l'expliciter, mais il me semble que c'est ça le véritable art du fantastique.
Oui, n'est-ce pas ? Ici, Noël Devaux nous présente une jeune folle, bien, et puis des voyageuses qui montent en berline. Et il nous les présente comme des personnages réels. Il les voit monter, elles relèvent leur jupe afin de monter en berline, l'une redresse son chapeau, etc. Enfin, elles font des gestes qui sont des gestes que toute femme peut faire dans une circonstance semblable. Ce qu'il y a de très intéressant, c'est de montrer que le fantastique, qui pour le grand public évoque aussitôt ou la sorcellerie, ou la diablerie, ou bien les apparitions de fantômes, ne peut être renouvelé au XXe siècle que par des moyens d'une grande subtilité, mais qui sont ceux précisément qu'emploie Noël Devaux, à savoir le décalage et en même temps un art de séduction dans le récit tellement grand que le lecteur se sent en quelque sorte pris par la main et entraîné malgré lui dans ce second monde auquel je faisais allusion au début de ces émissions.
Je suis en train de penser à l'ouvrage de Roger Caillois, Au cœur du fantastique. Dans cet essai où Caillois nous fait un commentaire de quelques toiles, quelques gravures célèbres, il nous dit en même temps sa façon de voir en ce qui concerne le fantastique dans l'art. Et il nous dit que pour lui, ce qui est fantastique dans une représentation imagée, qu'il s'agisse d'un dessin, d'une gravure, d'une toile, c'est précisément ce qu'il reste quand on en a ôté tout ce qui est apparemment fantastique.
C'est pour cela d'ailleurs qu'il écarte aussitôt tout le fantastique dans l'art auquel les gens songent immédiatement.
Oui, c'est-à-dire Jérôme Bosch.
Je veux dire Jérôme Bosch, n'est-ce pas ? Ou bien les sorcières de Hans Baldungrin, etc., n'est-ce pas ?
Pour et puis ça, les références à l'alchimie aussi, n'est-ce pas ?
Oui, aux symboles tout alchimiques. Ça pour lui, ça n'est pas du fantastique parce que c'est du diabolique, voilà, n'est-ce pas ?
Et notamment, il nous présente un tableau qui est assez pauvre de facture, mais assez connu parce qu'il est dans les petites pages du Larousse illustré, c'est le tableau des énervés de Jumièges, qui représente donc deux suppliciés dont on a coupé les tendons des muscles, oui, n'est-ce pas ? Et qui sont étendus sur un radeau. Devant ce radeau se trouve une petite lumière, sans doute une statue d'un saint ou de la Vierge, et ils sont abandonnés sur une grande étendue d'eau et l'horizon très lointain. Et dans ce tableau, apparemment inoffensif, il y a un climat qui se dégage, une impression bizarre, fantastique, qui, pour Caillois, représente plus que ce que nous voyons et produit chez celui qui regarde ce tableau davantage que la représentation du tableau. Bon, c'est là aussi le décalage, Marcel
Schneider.
C'est là
aussi le décalage, c'est ça, le décalage. Oui.
C'est pas dans je pense que Noël Devaux, c'est à peu près pareil.
Oui, enfin, ça, parce que dans ce tableau auquel vous faites allusion, il y a deux jeunes princes mérovingiens qui sont...
Oui, ce sont des princes mérovingiens.
Voilà, n'est-ce pas, ouais. Qui sont étendus, qui sont donc des victimes, et des victimes lamentables et à garde. La scène se passe à la fin du jour, par conséquent, il y a un fond de tableau doré et mélancolique. L'étendue d'eau, c'est la Seine, je suppose que c'est la Seine, puisque ça se passe à Jumièges, n'est-ce pas, près de l'abbaye de Jumièges. Et alors, ce tableau peut prendre une signification symbolique Et c'est à ce moment-là qu'il devient fantastique, dans la mesure où ce ne sont plus deux princes mérovingiens qui ont été suppliciés, mais deux hommes qui représentent la misérable condition humaine, n'est-ce pas ? Ou bien alors, quelque chose de plus étonnant encore, des victimes offertes aux dieux, ou alors des victimes religieuses. Enfin, on peut songer à toutes sortes d'interprétations, et ça, c'est l'atmosphère lugubre et en même temps réaliste du tableau qui y fait penser. Là encore, le fantastique vient, n'est-ce pas, de l'idée que l'on se fait, ou bien du tableau que l'on voit, ou bien de l'histoire qu'on nous raconte. Il y a une collaboration du lecteur indispensable dans ce cas-là.
Mais je serais curieux de savoir quelle est l'idée de l'auditeur qui va écouter « La Dame de Murcie ».
Nous avions loué un grand atelier non loin de Santa Eulalia et nous voisinions avec un Brésilien dont la fortune nous séparait plus sûrement que la porte massive percée dans le mur mitoyen. Nous savions qu'il s'était installé à la hâte dans l'attente d'une luxueuse villa, mais il n'avait jamais manifesté le désir de nous voir autrement qu'au hasard des rencontres. Du reste, notre vie était suffisamment remplie et ce voisin ne nous aurait nullement préoccupés n'eût été le mystère un peu irritant dont il semblait s'entourer à plaisir. Nous fûmes donc étonnés quand, rappelés par ses affaires, il nous pria de garder ses biens en son absence. Une vieille femme assurerait deux fois par jour la subsistance des chats en déposant une tasse de lait devant un soupirail. Quant à nous, nous devions veiller à ce que personne n'entrât. C'était le plus clair de notre mission. En outre, nous recevions une clé gigantesque qui ouvrait la première porte de communication. Car, jusque-là nous avions ignoré ce détail, la porte qui donnait dans notre atelier était doublée par une autre, tout aussi massive, tout aussi ferrée, pourvue de barres et de serrures. Pareille prudence trouvait sa raison d'être dans l'histoire de Murcie, mais je ne me souviens plus des faits avec assez de précision. De toute façon, nous ne devions faire usage de la clé que dans une urgence déclarée, un incendie ou la rupture d'une conduite. Plusieurs jours s'étaient écoulés sans que se présentât l'occasion que nous nous prenions naïvement à souhaiter. Aussi bien avions-nous toujours déploré de n'avoir pu faire à cet homme, évidemment fin et cultivé, les honneurs de notre atelier qui nous plaisait, que nous avions orné avec goût, où nous pouvions montrer de petites merveilles, telle cette blonde Salomé proche du tragique Bermejo, acquise dans une métairie au prix d'une patience incroyable. De la galerie circulaire qui domine l'atelier, je contemplais l'ordonnance que nous avions eu tant de joie à créer, quand la porte de notre voisin s'ouvrit. Je n'avais entendu aucun bruit, mais très éloigné d'envisager pareil événement, j'avais pu négliger ces préliminaires. En tout cas, il était évident que la porte de notre côté n'avait jamais été verrouillée, contrairement à ce que nous pensions. Un certain laps de temps suivit, où rien ne s'annonça dans le couloir obscur ainsi découvert. Je me souviens qu'il était environ 5 heures, et que le soleil frappait obliquement les vitres. Ma femme était allée livrer à une communauté les béatis faites d'étoffes et de coquillages dont nous tirions le plus clair de nos revenus. Enfin, il me sembla qu'une forme blanche avançait avec d'infinies précautions. Une tête parut, puis se retira avant que j'eusse pu définir sa nature. Mon soulagement fut extrême quand l'animal se fut dégagé entièrement. À ma grande surprise, il était visiblement sollicité par la beauté environnante. Je ne pousserai pas l'incongruité jusqu'à prétendre que les détails le retenaient, mais je suis convaincue qu'il avait conscience d'un décor nouveau et sans doute d'esprit opposé à celui où il avait coutume d'évoluer. L'animal regarda longtemps autour de lui, sans que l'idée lui vînt de lever la tête vers l'étage. Quand ce premier inventaire fut achevé, il avança lentement, d'une démarche ondulante, et j'eus tout le loisir de l'examiner. Cependant, parvenu au point de cette relation où je ne puis éviter de le décrire, j'hésite, soit faiblesse, soit respect. J'incline à penser que cette prétention serait de toute façon vaine. La créature ne rappelait aucune forme naturelle, végétale ou animale, n'entrait dans aucun registre du souvenir. Seul le visage offrait de vagues indications humaines, mais cela avant qu'on eût songé à isoler chaque trait. Les yeux excédaient en beauté les plus vertigineux au bord desquels un homme se fût jamais penché. Leur secret résidait dans un jaillissement inépuisable de paillettes d'or, d'une telle chaleur que la proie fascinée s'abandonnait presque aussitôt à une extase irréparable. Pour l'instant, elle semblait visiter ce nouvel espace minutieusement, d'une foulée lente et souple. Les couleurs, les odeurs, des sonorités pour moi imperceptibles faisaient l'objet d'une appréciation comparée. Maintenant, j'eusse affirmé, sans craindre l'opinion, qu'elle s'arrêtait devant chaque meuble, chaque objet, sensible à des qualités insolites. Enfin, elle m'aperçut, et j'eus à peine ressenti son regard que d'un bond, elle avait regagné l'issue. Le lourd ventail demeurait ouvert comme une invite. Je descendis, sans analyser l'attrait auquel j'obéissais, mais dans l'intervalle, la porte s'était refermée. Je n'avais jamais pour ma femme le moindre secret. Non que j'eusse prétendu livrer de mon être une vérité que moi-même je me sens inapte à saisir. Cette fois, sans motif raisonnable, je m'efforçais de lui cacher mon trouble. Et notre vie commune connut insensiblement la contrainte. Ai-je renoncé à retrouver l'apparence de cette créature ? À y bien réfléchir, le rapprochement qu'on eût pu suggérer avec certains hybrides des mythologies orientales fait bon marché de la distance infranchissable entre la richesse de la vie et ce qui n'est pour moi qu'une combinaison intellectuelle. Alors que la sphinge, la lamie accusent les contrastes qu'elles veulent harmoniser, tout dans la Dame de Murcie manifestait une unité, une nécessité infrangible. Sans doute eût-on pu admirer sans fin l'aisance musclée des hanches, à la limite du fauve et du rapace, où naissait la plume dufteuse dans un pelage d'un blanc immaculé. Sans doute ai-je longuement contemplé des lèvres dont la chair et l'arabesque m'étaient également nouvelles, mais ces traits s'effacent dans mon souvenir devant une présence impérieuse. À quel point je fus alors profondément changée. Il me semblait participer d'une nature plus qu'humaine, et jusque-là n'avoir entretenu avec le monde que des rapports trompeurs. Ma femme pressentait un drame latent, mais savait qu'en le découvrant, elle en précipiterait l'issue. Du reste, elle n'avait pas franchi notre seuil au retour de ses courses que la dame était loin, et que le ventail s'était rabattu sur le silence. Pour moi, l'hésitation et l'inquiétude qui me sont habituelles avait fait place à une assurance exaltante. J'étais capable de tout. Et ma femme, j'en suis sûre, craignit alors pour sa sécurité. Dans mes yeux dilatés, elle tentait de saisir la visée de mon obsession. Mais l'autre pôle manquait. L'explosion d'or pur, le geyser intarissable et rutilant, qui pour moi seul jaillissait d'une source inaccessible. Quand le Brésilien annonça son retour, j'étais parvenue à un état proche de l'hypnose, et la nouvelle redoutée libéra le ressort tendu au plus secret de ma folie. Je le dis sans rechercher un alibi dans cette activité seconde, mais c'est un fait qu'en dépit de mes efforts, je n'ai aucun souvenir de mon ultime rencontre avec la Dame de Murcie. Et j'en serais réduit aux déductions si je n'avais encore présent, aussi aigu, après si longtemps, le cri terrible, presque humain, qui me rendit à la médiocrité de la vie journalière. Encore celle-ci ne reprit-elle pas son empire sur le champ. Après que le coup eut été frappé, le cri dut être oblitéré dans les eaux mortes de ma conscience. Ma femme l'entendit de loin sur la route. J'eus le temps de fermer les deux portes, et c'est quand tout fut ainsi accompli, minutieusement exécuté, que le cri atteignit mes sens et brisa ma hantise. Ma femme entrait, je m'évanouis sur le dallage de l'atelier. J'eus la force de reprendre un semblant d'aisance. Lorsque le soir, à peine arrivé, notre voisin vint nous saluer, alors que son agitation était évidente, je lui rendis sa clé sans trouble apparent. Et je fis bonne figure quand il posa sur moi un regard lourd de sens. La nuit vint, la nuit claire de l'Andalousie. Ma femme, harassée, parvint à s'assoupir. Je me dissimulai derrière un contrevent, d'où, par la feuillure, j'avais vu sur nos jardins jumeaux. L'homme avait déplacé quelques jarres d'orangers, et dans une terre meuble, car ces jardins sont pris sur d'antiques remblais, il fouillait sans bruit une fosse à mesure humaine. La nuit était chaude, odorante. Il se relevait fréquemment dans la fouille pour s'essuyer le front. Le travail achevé, il demeura debout, tourné vers nos fenêtres. Bien que je fusse parfaitement invisible, je ne pus supporter son regard. Quand je rouvris les yeux, il vacillait sous une lourde charge. Les coutures du sac volumineux bâillaient, témoignant de son désarroi ou de sa hâte, et la lune permettait d'entrevoir par les interstices l'éclatante blancheur du corps. Après les premières pelletées, l'homme parut hésiter. Il rentra pour sortir aussitôt, tenant un paquet souillé qu'il jeta dans la fosse. Le lendemain, tout avait repris l'ordre habituel, et la réserve d'orangers et de citronniers était à sa place. Nous ne devions plus revoir notre voisin. Il quitta Murcie, abandonnant maison et projet. Je résistais au désir de retrouver la salle où j'avais pénétré une seule fois pour le dénouement, et dont je n'avais conservé aucun souvenir. C'était déjà trop de mes regards involontaires sur le ventail massif. Il m'apportait le témoignage de la prévoyance minutieuse qui avait gouverné le dernier acte de mon délire. Bien que rouillé par une longue inaction, les verrous avaient été poussés et soigneusement assujettis. Puis nous partîmes à notre tour, échangeant cette ville pour une autre d'apparence aussi conventionnelle, aussi rigoriste, où nous n'avions plus rien de commun avec le sang répandu et les clameurs nocturnes.
Après cette audition du texte de Noël Devaux, La Dame de Murcie, je crois, Marcel Schneider, que vous avez une question à poser à notre invité d'aujourd'hui, Jacques Brenner.
Oui, je voudrais savoir si Jacques Brenner est de l'avis de Jean-Paul Lang, qui a écrit une étude fort intéressante sur Noël Devaux au moment de la publication de son premier livre, L'Auberge Parpillon. Et Paul Lang voit dans ses contes des paraboles ou des allégories. Mais il ajoute aussitôt « Ce sont des allégories sans explication et des paraboles sans clé. »
Ce qui est clair.
Ce qui est clair, évidemment, puisque le principe même d'une allégorie, c'est d'avoir une signification. Et on peut en dire autant pour la parabole.
On pourrait dire, évidemment, que dès que l'on raconte une histoire, on raconte donc quelque chose, que quelque chose a toujours un sens. Et alors, naturellement, on peut penser que Paul Lang plaisantait, puisque, comme vous le disiez, qu'est-ce qu'une parabole dont le sens n'apparaît pas clairement? Mais l'évidence d'une parabole n'est pas non plus la preuve de sa réalité. Et chez Noël Devaux, ce qu'il faut voir, c'est comment naissent ces contes. Et à plusieurs reprises, dans ses nouvelles, il cite le rêve comme origine. C'est-à-dire que dans le rêve, nous nous racontons des histoires dont nous savons bien qu'elles ont un sens, mais nous les explicitons donc par des images. Et il existe enfin un tas de clés des songes, et aucune, même celle du freudisme, ne sont certaines. Et il me semble que Noël Devaux, là, se rapproche un peu de Ionesco. Les nouvelles de Ionesco également partent de rêves. Et donc, il n'y a pas d'abord à savoir ce que ça veut dire. On est pris par le déroulement du rêve, du conte directement, comme on l'est par le déroulement d'un rêve. C'est-à-dire que du moment qu'on rêve ça, on est pris par la force, par l'exactitude des faits. Et le sens, en effet, est très secondaire. Mais c'est ce qui rend très difficile de parler de Noël Devaux, parce que lorsqu'on le lit, on est en effet très sensible à l'histoire qu'il raconte, mais à la longue, comme les effets de surprise, l'accumulation du bizarre, naturellement quand même, devient de la gratuité lorsqu'on n'arrive pas à y mettre ce fameux sens. Et c'est ce qui explique sans doute que dans cette même préface que vous citiez de Paulhan, il finit par dire qu'il arrive à Noël Devaux d'être ennuyeux. Ce qui me semble pas vrai. D'abord, les contes de Noël Devaux sont trop courts pour que cette impression d'ennui qui naîtrait d'une incompréhension du texte puisse réellement se faire sentir. Puis nous sommes dans un dépaysement et dans un état second. Justement, la force de Noël Devaux, c'est de nous plonger dans un monde mystérieux et dans un monde étrange. Une fois qu'on est là-dedans, on y baigne, ça peut devenir un peu étouffant, ça peut devenir un peu insupportable, mais c'est également le paradoxe de ce genre de littérature, c'est que l'insupportable a quelque chose de très attachant.
Oui, d'autant plus que l'ennui, dans le domaine artistique, ça vient surtout d'un manque de talent. Je veux dire que l'on est sensible à l'ennui d'une lecture quand on n'est plus dans la lecture. Or, on n'est plus dans la lecture parce que l'auteur n'a pas suffisamment de talent pour nous y tenir, pour nous y mettre dans cette lecture. Alors, je crois que le terme, là, n'est pas propre. L'ennui, ici, il faut le comprendre par une difficulté à saisir le monde dans lequel il veut nous entraîner. N'est-ce pas, Marcel Schneider?
Oui, d'ailleurs, c'est ce que Paulhan dit fort bien dans le reste de son étude, n'est-ce pas? Il a employé le mot « ennui » par malice.
Oui, enfin, impertinence.
Par impertinence, nous connaissons bien sa méthode. Il dit très justement « Nous n'apprenons pas très vite à lire Devaux. Il nous faut d'abord tâtonner, essayer de ceci et de cela, le quitter, puis le reprendre, longtemps avant de nous sentir à peu près chez nous dans ces histoires. » Par conséquent, il insiste sur la qualité d'étrangement et de dépaysement où nous mettent les œuvres de Noël Devaux. Et à nos yeux, c'est précisément cet estrangement et ce dépaysement qui sont ses vertus principales.
Mais naturellement, parce que lorsque Paulhan parle d'ennui, c'est en réalité, il veut faire un compliment. Il veut dire qu'un livre que l'on lit très facilement, c'est généralement un livre qui vous apprend rien, qui vous plonge dans un univers tout à fait familier. Alors on suit une histoire, ou alors même des histoires extravagantes, mais si elles sont policières et faites sur des schémas que tout le monde connaît bien. Tandis que, dit-il, on reconnaît une œuvre de valeur à ceci que... qu'on s'arrête quand même,
oui,
parce qu'on se dit qu'est-ce qui se passe.
C'est la valeur de tous les paradoxes, il faut bien les comprendre,
oui,
n'est-ce pas? Mais il y a tout de même une chose sur laquelle je voudrais insister, parce que nous sommes dans la littérature fantastique. Et Marcel Schneider, après les exemples que nous avons vus jusqu'à présent, je crois que celui de Noël Devaux, peut-être, va nous permettre de cerner au plus près, au plus et loin en même temps, la signification ou l'apport du fantastique dans la littérature. En effet, Jacques Brenner a fait allusion à une littérature de rêve, ou tout au moins qui nous mettrait dans une atmosphère de rêve. Mais le rêve, nous le connaissons déjà dans la littérature fantastique, il est utilisé,
bien sûr,
il est utilisé comme moyen. Or là, ce n'est pas un moyen, c'est une sensation. Par exemple, dans La Dame de Murcy, il faut lire avec beaucoup de soin, il faut écouter avec beaucoup d'attention pour nous rendre compte que quand il veut nous faire voir quelque chose, et par exemple cet être, il l'appelle successivement un être, non, une forme, un animal, et puis elle. Eh bien, tout cela correspond tout de même à une indétermination qui est sensible dans le texte lui-même, vous comprenez ce que je veux dire?
Oui, ça deviendrait, l'art de Devaux,
oui,
cette nouvelle.
Oui, c'est comme une distraction de l'auteur, par exemple. Vous comprenez qu'il n'emploie pas toujours le même terme pour désigner la même chose.
Oui, mais l'incertitude, là, c'est une incertitude très réelle sur ce qu'est réellement cette Dame de Murcy.
Oui, mais qu'est-elle réellement? Quelle est-elle?
N'est-ce pas? Moi, je crois que dans La Dame de Murcy, Noël Devaux a voulu parler de la merveille telle qu'elle nous apparaît sous sa forme sensible. Parce qu'il y a une merveille d'ordre intellectuel, une merveille d'ordre métaphysique, mais il y a aussi une merveille d'ordre sensible, de révélation sensible. Et alors, pour cela, il se sert d'à peu près que sont toutes les images poétiques, à savoir la forme, l'animal au plumage brillant, elle, c'est-à-dire une femme miraculeuse, n'est-ce pas ? Et cela pour nous donner, par une série d'approximations, une image sensible de la merveille. Moi, c'est ainsi que je comprends du moins ce récit. Oui, qu'est-ce que vous en pensez, Jacques Brenner ?
Et avec une grande ambiguïté quand même sur les différentes significations de cette merveille. N'est-ce pas, ça passe de l'admiration à l'effroi, ça va de l'attirance au contraire à la
répulsion.
Il y a là...
C'est l'ambivalence de toutes nos sensations, puisque l'amour est si proche de la haine, et l'attirance de la répulsion, précisément. Alors ça, c'est très bien vu.
Et la merveille de l'horreur.
Et la merveille de l'horreur, mais les anges sont des personnages terribles.
On dirait que vous en avez vu quand
mais bien sûr.
Une remarque que l'on peut faire à propos de l'art de Noël Devaux, c'est que dans les premières nouvelles, il y avait une accumulation de détails qui faisait perdre de vue la ligne principale. Et il me semble que dans une nouvelle comme La Dame de Murcie, là, il s'est entièrement concentré sur une seule histoire. Et ce sont donc des nouvelles beaucoup moins déroutantes parce qu'elles frappent alors de plein fouet, elles frappent absolument directement. Et alors l'autre chose, c'est qu'il y avait toujours eu un baroquisme chez Devaux, mais mêlé à un tas de choses très familières. Et dans une nouvelle également comme celle-là, on passe aussi du côté ce que j'appellerais grand opéra. Il y a un goût du cérémonial qui, chez Devaux, devient de plus en plus évident dans son œuvre. Dans le volume qui s'appelle La Dame de Murcie, la nouvelle que moi je préfère, qui s'appelle Aubade à la folle, et une espèce de... Vraiment, une cérémonie où là où il y a un mystère. Enfin, Marcel Schneider parle de cette nouvelle dans son Histoire du Fantastique. Et là, la merveille est simplement par le fait d'une musique, de la transformation d'une vieille sorcière en une femme merveilleusement belle. C'est-à-dire que tout se passe dans l'intérieur du personnage. C'est en lui-même que se fait cette métamorphose sous les incitations du monde extérieur. Mais dans La Dame de Murcie, alors, de la même façon, on a, si vous voulez, d'un côté quelque chose de violemment théâtral pour illustrer quelque chose d'entièrement intérieur. Et je pense que là, c'est finalement la grande séduction de Devaux. L'histoire du rêve, justement, la façon dont les surréalistes l'avaient utilisé, en lui laissant, non pas la vulgarité, mais le côté embrouillé, le côté pas artistique du rêve, enfin le rendre tel quel. Tandis que chez Devaux, il y a une stylisation. Et cette stylisation, c'est justement une chose qui ajoute à ce mystère. C'est ce jeu de contradictions chez Devaux qui fait sa particularité dans le domaine du fantastique.
C'est une définition du fantastique, la stylisation du rêve, alors.
Dans son cas, il me semble.
En tout cas, Jacques Brenner, il me semble que vous avez très bien défini ces nouvelles de Noël Devaux en parlant de grands opéras. Et j'ajouterais que ce sont des grands opéras chantés dans une langue que nous ne comprenons pas et dont la fascination est encore beaucoup plus grande puisque nous ne pouvons l'approcher que par notre sens du mystère et non pas du tout grâce à nos démarches rationnelles.
Les cris de la fée. C'était une émission de Marcel Schneider et Roger Vrigny, avec aujourd'hui la collaboration de Jacques Brenner. Les textes de Noël Devaux étaient lus par France Descaux. Assistante de production Nicole Baratou, réalisation Guy Delaunay.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 18 mars 1966.